Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur RMC pour Rotten sans flamme, l'émission foot de référence tous les jours, 18h-20h, avec une dream team inégalée. On embrasse Jérôme Rotten, qui a pris quelques jours de vacances avant les grandes échéances de fin de saison qui arrivent. On l'embrasse, Jérôme. Une dream team bien fournie ce soir avec Christophe Dugarry. Salut Dugarry.
Salut Benoît, bonsoir à tous les amis.
Ça va Dugarry, t'as passé un bon
très,
week-end?
Très bien. Très très bien, oui, bah, intéressant.
Hein, intéressant.
Intéressant, où beaucoup de choses sont relancées.
Ouais.
On retrouve un peu de. Voilà, avec ce beau match anglais aussi. Donc,
okay.
C'était un beau week-end.
Oui, on parlera de tout ça d'ailleurs. Le match anglais sera à l'honneur, on parlera de la Ligue 1,
exactement.
Tous les sujets seront abordés.
Exactement.
L'accent marseillais dans Rotten sans flamme, Eric Dimeco est là. Salut Eric.
Salut Benoît, salut Dugas, salut Soulet, salut à tous les poulets.
Un beau week-end Eric.
Écoute, alors, tu sais quoi, je vais donner, une fois n'est pas coutume, un conseil à nos auditeurs qui sont nos amis. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir Paul de Saint-Cernin en spectacle, allez-y parce que je me suis régalé. J'ai préféré aller voir Paul que voir l'OM, et bien je le regrette pas.
Parce c'est notre ami Paul, l'embrasse, c'est excellent.
Non, mais il m'a étonné.
Tu veux dire que Paul court plus que les Marseillais, tu veux dire?
Non, mais alors il n'est pas aussi rigolo que les Marseillais parce que là ce week-end ils ont été très rigolos. Mais non, il est vraiment très beau, il m'a étonné. Je pensais pas qu'il était
déjà beau. Vous voulez aller voir Osiris?
Non, mais c'est un jeune artiste dans le Wonderman Show. Je pensais pas qu'il était déjà à ce niveau. Courez-y, les gars.
Bon.
Parce qu'après ce sera trop cher quand il va être trop.
Exactement.
Plus vous le payer. Allez-y.
Souleymane Diawara est là également.
Tu prends un billet pour cette pub ou pas du tout?
Non, c'est vraiment du fond du cœur.
Et à choisir en ce moment les temps sont durs. Est-ce qu'il vaut mieux garder un peu d'argent pour Osiris ou pour aller voir de Saint-Cernin?
Alors Osiris c'est gratuit, ce sera samedi soir à l'Open Guendé, donc tournoi de tennis bien connu en Bretagne.
Et Eric va traverser la France en minibus, c'est vrai, on a oublié.
Exactement.
Ça.
Eh oui, 10 heures de minibus pour Osiris.
Non mais du gars, j'ai l'astuce en fait. Eric essaye de recruter Paul pour les galéjades en fin d'année. Donc en fait, il le brosse dans le sens du poil.
Je vais tenter de le faire venir l'année prochaine, c'est clair.
Ok, très bien. Souleymane Diawara est là aussi, salut Soulé.
Salut à vous.
Un bon week-end Soulé.
Un autre humoriste, qu'est-ce que ça fait plaisir.
Tu fais pas des sketchs Soulé, non
pas ça. Putain, j'aimerais bien, je te jure, j'ai passé un sale week-end moi aussi.
Ah Soulé, il a souffert devant le match de l'OM.
Non, c'était difficile, j'ai failli avoir un AVC.
J'ai pris des risques sur la route parce que.
Ah non, ça il faut pas.
Non, bah, je sais, mais tellement je voulais aller voir le match pour pas être en retard. J'étais avec les enfants comme c'est les vacances, ils sont venus.
Ouais.
Donc pour pas être en retard pour le début du match, j'ai appuyé un peu fort sur la pédale, tu vois. Donc j'ai pris des risques à prendre des amendes. Bon, chose qu'il faut pas faire.
Ouais.
Mais je regrettais de fou en fait.
Tu sais qu'il y a un bruit qui court à RMC comme quoi tu voudrais devenir supporter du PSG.
Oh là, c'est rapide. En ce moment, non mais.
Non, jamais,
parce que voilà, Marseille m'a tout donné. Il peut pas me chauffer. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur.
Se presser, rentrer pour voir Lorient-Marseille, vu la prestation, ça c'est un concept. Ça a de quoi t'énerver tout le week-end, ça c'est sûr.
On a reparlé.
Alors à 19h, est-ce que la course au titre est relancée? Parce qu'il n'y avait pas que l'OM ce week-end, il y a également le PSG qui a été battu logiquement par Lyon. 2-1 au Parc des Princes. Lens qui est allé chercher une victoire miraculeuse contre Toulouse, 3-2. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre les deux équipes. On parlera donc de
Monaco
la course
accroché.
Ah ouais, Monaco qui perdait 2-0 contre Auxerre qui a fait le nul.
Belle victoire de Rennes également. Il s'est passé des choses.
Du gars, tu me fais peur, t'as trop regardé la Ligue 1 là. C'est flippant.
Je me sens heureux, du gars là.
C'était
une journée importante.
Il sera plus impressionnant, à mon avis.
Il a plus l'impression des résultats des Girondins.
Ouais, ils ont gagné les Girondins d'ailleurs.
Ça va être dur.
À 18h45, Dugas en parlait. On va revenir sur l'énorme choc du week-end en Première Ligue, Manchester City Arsenal, la victoire des Citizens 2-1. On sera avec un ami de Soulé Diawara, ancien consultant d'ici, aujourd'hui consultant Ligue 1 Plus. Johan Jourou sera avec nous, ancien joueur d'Arsenal.
Excellent Johan Jourou,
on est ravi qu'il soit là. Les Gunners ont-ils perdu le titre hier? On répondra à cette question. Et puis à 18h30, le procès de Mehdi Benatia et de son discours inaudible. 4 minutes de one man show, comme tu dis Eric, pour sulfater tous les joueurs de l'OM. On réécoutera Mehdi justement et vous pourrez en débattre dans le procès.
Je suis curieux de savoir, il attaque les joueurs, j'espère qu'Eric va pas être contre.
Ah bah tu verras, écoute, on répartira les rôles à 18h30, t'inquiète pas.
Bon, je comprends plus rien. Bon, écoute, il va m'expliquer, ce sera possible.
Ouais, non mais ça fait un moment que j'avais compris que tu comprenais plus. Hein.
Et puis l'événement sur RMC aujourd'hui, c'est qu'on lance l'expérience RMC autour de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich mardi prochain le 28 avril à 21h au Parc des Princes. Vous connaissez l'expérience RMC, vous allez assister donc à Rotten sans flamme en direct du stade, ensuite vous êtes au match avec la personne de votre choix, puis vous revenez à RMC pour débriefer la rencontre dans les coulisses de l'after. Dès que vous entendrez cette alerte sonore, vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG par SMS au 732-16, PSG au 732-16. Mais tout de suite, on y va sur Marseille, nouveau numéro de l'OM Circus.
Après 28 minutes, Lorient qui prend l'avantage, 1-0.
Allez, Adji ! Je t'adore, je te rends pas !
Ce soir, j'estime qu'il y avait des joueurs qui avaient la possibilité de marquer aussi, de leur empreinte cette fin de saison. Cette opportunité n'a pas été saisie.
Arrête.
Je vais me mettre en colère.
Si on doit aller sur les 4 derniers matchs avec des jeunes qui peut-être, eux, ont cette fin de bien finir cette fin de saison, on ira. Mais il est hors de question de revoir le visage qu'on a vu ce soir.
Marseille, quand ça va pas, il n'y a pas que le club, hein, c'est toute la ville.
Tu viens de passer ta semaine à Marbella pour ça, pour créer du lien. Il n'y a pas de lien. C'est un échec total.
C'est terminé. Victoire 2-0, net et sans bavure de la part des Lorientais.
Quand tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et que tu gagnes pas un duel et que tu n'as pas une course vers l'avant, quand tu as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, et ça doit se voir. Sauf que ça se voit pas.
Ouh, c'est tout.
Cette prestation catastrophique de l'Olympique de Marseille, donc samedi, la défaite 2-0 à Lorient, l'un des plus mauvais matchs de la saison pour l'OM, qui pourtant rentrait de stage de Marbella, hein. Moi, je comprends pas. Les stages de cohésion, ça marche pas, finalement, du gars et Eric. On en parlait la semaine dernière.
Je vous ai expliqué la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai, tu vous as expliqué. Hein. C'est vrai. Conséquence au classement, l'OM est hors du top 5 pour la première fois depuis fin septembre. Parlons-en avec Florent Germain qui nous rejoint. Salut Flo.
Salut à tous. Salut Benoît. Salut les amis.
Flo, cette fois, c'est clair. Les joueurs sont dans le viseur du staff et de la direction.
Oui, c'est vrai que Mehdi Benatia non seulement s'est exprimé, mais la direction de l'OM, je vais vous l'expliquer, et le propriétaire Franck Macourt sont aussi agacés de ce qu'ils ont vu lors du match entre donc Lorient et l'OM. Donc les sanctions, on les rappelle, elles sont là. Pas de repos aujourd'hui parce que ce lundi devait être un jour off. Mardi et mercredi, séance le matin et l'après-midi, donc double entraînement. Et puis à partir de jeudi, c'est ça qui est peut-être le plus frappant, 3 nuits non-stop à la commanderie, donc mise au vert au centre RLD jusqu'au match qui est quand même assez tard, dimanche à 20h45. Donc
pendant 3 jours
jours à la commanderie non-stop, tu peux même dire 4 jours et 3 nuits, tu vois.
Pour
certains joueurs, je pense que ça peut faire beaucoup, d'autant que ils viennent de passer 5 jours à Marbella loin des familles et des amis. Benatia avait invité les joueurs à ne rien prévoir pendant les 4 prochaines semaines, et c'est vrai que ce coup de gueule, ces sanctions derrière, elles ont été validées aussi en haut lieu parce que Franck Macourt avait demandé au vestiaire, il s'en est exprimé après OMS, de tout donner pour atteindre l'objectif Ligue des Champions. Donc c'est pas une décision en cavalier seul de Mehdi Benatia, c'est partagé par tous les dirigeants, parce que le fiasco de Lorient, il a donc été très très mal vécu, et les joueurs sont vraiment dans le viseur parce qu'il y a ceux qui regrettent De Zerbi, ceux qui ont la tête ailleurs, ceux qui pensent à leur futur club, à la Coupe du Monde ou autre, et ceux déjà, ça commence à venir, qui n'accroche pas vraiment avec Habib Bey, avec ses consignes, avec son discours. Donc on est quand même dans une situation très très compliquée à Marseille.
Merci Flo, c'est la une de Rotten sans flamme. Est-ce que l'OM va tout perdre? 32-16 supporters marseillais pour participer au débat avec nous. Duga, est-ce que ça y est, t'es vraiment inquiet pour l'OM?
Vont-ils tout perdre? C'est bien parti. Ouais. C'est bien parti. Il suffit d'écouter Flo, qui d'habitude est plutôt essaye d'être le plus rassurant possible. Là, c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qu'il est en train de nous dire. Ce match, il est terrible. Il est terrible ce match parce que t'as envie de voir des mecs qui courent. Voilà, t'as juste envie de voir ça. Et alors quand tu te tapes le lendemain le match de ces Lyonnais qui ont été incroyables, cette jeunesse lyonnaise, tu te dis mais mon Dieu, le football, est-ce que l'essence même du football, il est pas là? C'est encore plus quand t'es en difficulté. la première des choses qu'on doit demander à des joueurs, c'est de courir. Et c'est vrai que ces Marseillais, je suis désolé, mais ils courent pas. Alors qu'est-ce qui les bloque? J'en sais rien. La Coupe du Monde, leur avenir, Abibay, De Zerbi, enfin, je sais pas ce qui les bloque, j'en sais rien. Mais mon Dieu, quand t'es pas capable de faire des courses vers l'avant, quand t'es pas capable de mettre de l'intensité, quand t'es pas capable de faire des appels à vide pour un partenaire, quand t'es pas. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. Et je te dis encore plus quand j'ai vu le match des Lyonnais. Quelle dépense d'énergie, quelle volonté de donner, même s'il va y avoir des erreurs, bien évidemment, c'est certainement pas, et c'est pas ce qu'on demande aujourd'hui aux Marseillais. Et peut-être que c'est un signe pour l'avenir. Est-ce que l'avenir du football aussi, c'est pas plutôt ça quand on voit aujourd'hui des clubs qui ont beaucoup de moyens investir énormément et ne pas atteindre les objectifs parce que justement l'intensité elle est pas là. Je pense à Chelsea, je pense à Tottenham, je pense à Liverpool, des équipes qui courent pas parce qu'il y a des joueurs qui ont du talent certainement, mais qui ont plus envie de courir face à eux avec des équipes qui courent beaucoup plus qu'eux. Ben on voit aujourd'hui la différence. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas une nouvelle orientation qu'il faut donner au football, et peut-être les Marseillais essayer
peut-être au recrutement
et c'est ce que j'allais
dire. Pas des noms ou pas des.
Exactement, CV, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que la prochaine orientation à prendre pour les Marseillais, c'est pas justement de prendre de la jeunesse qui va courir, qui aura des défauts, qui aura des passages à vide, qui aura des moments creux dans la saison, comme a pu l'avoir les Lyonnais ou d'autres équipes, mais qui court, qui donne de l'énergie, qui donne de la volonté, qui donne envie de les accompagner, qui donne envie de croire en eux et qui donne tout ce qu'ils ont sur le terrain. Quand je vois les petits Lyonnais encore avec les crampes sur le terrain, il y a aucun Marseillais qui à la fin de ce match-là, qui était une finale, avait des crampes, sincèrement, il y a pas. Donc surpayer des joueurs, te retrouver en fin de saison avec un trou de 100 millions, 120, 110, 150, l'actionnaire qui va payer tout ça, qui va combler les trous, et puis tu vois qu'il se passe rien. Au bout d'un moment, est-ce qu'il y en a pas marre de tout ça? Est-ce qu'il y en a pas marre? Parce que là, les joueurs, sincèrement, sur ce match là, c'est ils sont indéfendables. Alors on parlait tout à l'heure de Benatia et du procès, mais sincèrement, ils sont indéfendables. Et tu peux pas, quand on te dit quatre finales, faire aussi peu d'efforts et montrer aussi peu d'envie. Trouver aucune solution dans le jeu. Il y a rien. Ça fait pas appel ni au physique, ni au mental, ni à la technique. On n'a rien vu. Rien de ce qui est le minimum sur un match aussi important. Donc, j'ai l'impression et je pense, quand on voit la dynamique des autres équipes, on parlait tout à l'heure de Rennes, on parlait tout à l'heure de Lyon, même Lille, si c'est un petit coup d'arrêt, c'est vrai qu'on pense qu'aujourd'hui, je pense que ça va être très, 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 très compliqué, pour les Marseillais d'être dans les trois premiers.
L'OM sixième, hein, de Ligue 1, avec désormais deux points de retard sur le podium.
D'autant que quand on regarde le calendrier, sur le papier, tu devrais te dire que normalement, c'est abordable pour l'OM. Sauf que ce Marseille-là n'a aucune garantie, parce que il est probable quand même, vu le calendrier, il y a des confrontations directes entre les concurrents, que les Lyon, Rennes perdent des points. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas du tout ce Marseille faire un 4 sur 4 sur les dernières journées de championnat. Ça paraît totalement improbable.
Surtout que Nice, qui doit venir cette semaine au Stade Vélodrome, je peux te dire, ou dimanche, je peux te dire qu'ils devraient être contents de prendre l'OM en ce moment. Hein.
Oui, mais bon, Nice, ils auront joué la demi-finale de coupe aussi. C'est pas non plus, tu vois. Chaque équipe a ses problèmes.
C'est dans la tête aussi, ça. Nice, ils vont revenir. Ils ont pris un bon point ce week-end. Donc déjà, mentalement, ils vont être prêts. Et ils savent que Marseille, là, en ce moment, ils sont très malades. Donc c'est vrai que c'est, pour eux, c'est le bon moment d'aller prendre Marseille.
Tu dis que c'est foutu pour l'OM, toi, Soulet ?
C'est foutu, mais bien sûr que c'est foutu. On ne va pas se mentir. Tout simplement, tu regardes le classement. Même s'ils gagnent les 4 matchs, il va falloir dépendre des ans. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Et je ne suis pas encore sûr, avec l'état d'esprit que j'ai vu ce week-end, qu'ils vont réussir à gagner à les 4 matchs. Les 4 victoires, tu vois. Et moi, ce qui m'a énervé, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de risques pour aller voir ce match-là. Et
c'est surtout, interdit, hein, on précise,
c'est sûr. Mais c'est au-delà de même courir, mais surtout l'envie qu'ils ont mis quand tu sais que tu vas jouer une Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est le graal du joueur professionnel, tu vois. Et t'as cette possibilité de jouer cette Ligue des Champions. Et toi, malheureusement, tu négliges ça, tu vois.
Non mais Soulé, j'espère quand même que tu viens pas de tomber de ce week-end.
Non, je suis pas tombé, mais j'ai toujours ça. Espoir. Tu sais comment c'est quand c'est tu
fais un petit sport. Alors,
toi aussi, oui, Eric, mais tu t'en fiches.
Non, moi je m'inflige plus ça, moi. Ah non, moi contrairement, je vais donner un conseil à Soulé. Avant, je construisais mon week-end autour des matchs de l'OM. Là, ce week-end, ben, d'ailleurs, Paul, qui jouait donc au Théâtre de la Renaissance, c'était en même temps, puisque c'était en fin d'après-midi.
Ouais, y a un billet,
j'ai préféré aller privilégier mon week-end et truc que d'aller. Mais je ne construis plus mes week-ends, mais beaucoup de supporters, c'est comme ça, Flo, pourra te le dire. Hein. Les maintenant, si j'ai des trucs plus intéressants à faire que regarder le match, ben, je vais pas rouler à 200 pour aller regarder l'OM.
Tout est plus intéressant que match de l'OM.
Exactement. Donc, pour souligner juste comment on peut être étonné de ce qu'on voit aujourd'hui. Souvenez-vous quand même, et c'est le grand débat que avec Duga on fait depuis des années. Moi, je mets toujours la responsabilité des mauvais et des bons résultats sur les joueurs. Donc c'est écharpé parce que c'était De Zerbi pour beaucoup. Pour moi, c'était les joueurs. Et Soulé, ne rêve pas. Si quand tu fais deux matchs pour aller en Ligue des Champions, parce que là, quand tu joues contre Liverpool à la maison ou contre Bruges là-bas pour aller faire un éventuel barrage de Ligue des Champions, c'est pour l'intérêt de ton équipe, c'est pour l'intérêt de ton club, c'est pour l'intérêt de ta ville, mais c'est aussi pour ton intérêt à toi, parce que les joueurs sont peut-être plus égoïstes aujourd'hui, ils s'en foutent peut-être du club, mais là les mecs ils jouent une visibilité européenne, c'est-à-dire tu flammes contre Liverpool, ben tu prends de la valeur, tu peux signer. Donc si ces mecs-là sont pas capables de se sortir les doigts contre Liverpool et contre Bruges pour aller en barrage de Ligue des Champions, toi tu penses que aujourd'hui avec tout le bordel qu'il y a, un nouvel entraîneur qui a sûrement perdu son vestiaire d'après ce que Flo nous raconte, un directeur sportif qui a dit qu'il partait, qui est toujours là, donc son discours malheureusement il est démonétisé puisqu'il sera plus là, donc les mecs s'en foutent. Un actionnaire qui a mis un président, on ne sait pas où il est, un actionnaire qui aurait pu stratégiquement faire semblant que Mehdi continuait pour qu'il ait encore du poids quand il parle et tout. Et donc vous croyez que là maintenant ils vont se battre aujourd'hui alors qu'ils ne se sont pas battus en janvier pour aller en barrage de Ligue des Champions? Les gars, quand même, ne rêvez pas quand même.
C'est intéressant ce que tu dis, donc pour une fois tu les dédouanes les joueurs un peu, j'ai l'impression.
Non, c'est toujours eux.
Bah en tout cas, c'est pas les seuls responsables.
Et si tu te souviens, le débat de la semaine dernière sur la mise au vert.
Oui.
D'habitude, c'est rigolo parce que d'habitude, quand on fait, on l'avait fait deux ou trois fois ce débat. Quand il y avait eu le retiro avec De Zerbi, et là, quand il y a eu le départ au vert avec Bale quand ils viennent d'arriver. Moi, j'étais pour ces trucs-là parce que il y a des bonnes raisons et il y a des bons moments pour le faire. Bale arrive, il a envie d'avoir son groupe de il part. C'était une fin de saison où tu jouais la deuxième place, un coup de mou, bim, tu pars. Là, pour moi, c'était pas pour des bonnes raisons qu'ils partaient. Et la preuve, c'est que tu es allé les mettre dans du coco, loin de Marseille, pour qu'ils dorment à Lorient. Eh bien, moi, tu sais ce que j'aurais fait. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est facile à dire, puisque le match a eu lieu samedi, on a vu ce que ça donnait. Sauf que, vous pourrez écouter, moi, j'étais pas pour ce truc-là, je l'ai dit. C'est pas pour les bonnes raisons qu'on est allé au truc. Mais moi, j'aurais fait le contraire. Une semaine, entraînement public. Et là, tu vas voir ce que c'est, ce que les supporters attendent, la pression, ce que les gens vivent, ce que, ta mission, ton rôle, ton devoir, quand tu portes ce maillot-là. Fais-les entraîner au stade de Vélodrome pendant deux jours. Soulé l'a connu.
Mais maintenant, là, tu sais que les supporters, ils sont calmes, ils sont plus gentils maintenant.
Ils sont
maintenant,
gentils
tu vois
en plus. Donc, ils auraient un peu sifflé, ils auraient chambré les mecs, mais au moins, là, tu les as mis, au contraire, tu les as mis dans du cocon. Donc, les mecs, tu les mets. Donc, là-bas, ils ont dû jouer aux cartes, ils ont dû peut-être même se faire bronzer.
Mais même la fête d'aller
peut-être aller
jouer
au golf. Et tout, ben voilà, c'est la fête.
Mais la stratégie de la punition, là, vous y croyez, là, ça, les trois nuits de mise au vert à la commanderie, à quoi ça sert, en fait, désormais?
Mehdi, on va en parler tout à l'heure.
Il le ferait. Mehdi s'en va.
Ils sont obligés de le faire. C'est juste la limite de cette explication, je trouve, Eric. C'est que, ok, les joueurs ont une responsabilité, ok, ils ont tous été mauvais samedi, là, on est tous d'accord. En revanche, il y a aussi les choix de l'entraîneur qu'on peut analyser. Il sait très bien que Pavard et Balerdi, ils sont mauvais depuis des semaines, il les aligne de nouveau. Il va te mettre Pechao, piston gauche, et Traoré, piston droit. Il met Abdelli, titulaire, qui a jamais fait un bon match sous le maillot de l'OM. Ça fait beaucoup de choix un peu douteux, malheureusement, pour cet OM, même s'il y avait des absents. On peut pas forcément dédouaner Habib Bey de ses responsabilités, c'est ça le truc.
C'est les joueurs qui sont sur le terrain.
Oui, d'accord, mais ça, oui.
Guardiola, il vient avec ces joueurs-là, et dans ce truc, il tombe dans le trou comme les autres.
Tu sais pas.
Alors, je veux pas dédouaner Habib, mais ces débats-là, on les a fait avec De Zerbi, Ah, pourquoi il joue un quoi 5, pourquoi il joue un quoi 4, pourquoi il joue un coup avec les.
Ah, mais là, arrête, Eric, t'es en train de réhabiliter De Zerbi, là, arrête, tu vas trop loin, arrête, non, arrête.
Moi, j'ai pas peur de le réhabiliter, puisque j'ai jamais été contre lui. C'est vous qui avez été contre lui tout le temps.
Comment t'as jamais été contre lui?
Moi, j'ai toujours. Eh ben, tu réécouteras.
écoute-toi. Hein. Attends, fais les choses.
Moi, tu c'est facile.
Non, mais j'adore, t'as eu raison sur toute la ligne à l'OM. Mais mets-toi entraîneur pour directeur sportif ou président, vas-y.
Mais il y a personne qui a raison. Il y a personne qui a
raison. Parce que t'as assez juste.
Si tu nous as fait, c'est juste.
Tout dit. Moi, j'avais dit ça.
Non, mais là, c'est facile, nous. C'est facile puisque tu peux réécouter. Chaque fois qu'on a fait des débats sur les débâcles de l'OM, moi, j'ai toujours mis la responsabilité des joueurs en premier. Et avec Jérôme, vous avez défoncé De Zerbi.
Pas voilà. Toujours.
Donc, ça c'est la réalité.
Et toi, t'as dit que c'était un génie.
Ah non, j'ai pas dit que c'était un génie, moi. Moi, j'ai jamais dit que c'était un génie. Ah non, moi, j'ai dit que c'est les joueurs, les premiers.
Toi, t'as dit, il faut attendre la fin de saison avant de prendre une décision.
Non. Moi, l'an dernier, rappelle-toi, l'an dernier, je l'ai dédouané toute l'année parce que pour moi, il avait pas fait le recrutement et que cette équipe-là lui convenait pas. Cette année, il avait une responsabilité parce que il était là la saison dernière et le recrutement qui a eu lieu, c'est sa responsabilité. Sauf que pour moi, dans les résultats de l'OM, notamment dans les grands matchs, c'est les premiers responsables, c'est les joueurs. Mmh. Voilà. Donc, on a voulu.
Mais c'est facile.
Je n'ai pas dédouané De Zerbi parce que je comprenais pas tout non plus et je l'ai critiqué sur le fait que il y avait jamais deux fois la même équipe.
Et ben alors, d'accord.
Mais non, mais ça, bien sûr qu'on est d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce que tu dis sur Abibay, Benoît, eh ben c'était pareil sous De Zerbi.
Mais non, mais c'est ça la différence, Eric. Ne minimise pas ce que Flo nous a dit au début du débat. Il a dit même les joueurs commencent à ne plus comprendre les consignes d'Abibay. Ça fait deux mois qu'il est là. Désolé, là, c'est qu'il y a un problème. Les joueurs sont responsables.
Est-ce que les états d'âme des joueurs ou est-ce que leur avis sur le coach, tout ça est audible quand tu sais qu'effectivement, il y en a certains qui commençaient à s'épuiser avec De Zerbi alors que lui-même. Sentait également que sa méthode passait moins, c'est pour ça qu'il est parti, hein. Faut pas se tromper, hein, sur le départ de De Zerbi, c'est que lui, il avait le sentiment que sa méthode ne passait plus. Mm-hmm. Après, t'as quelques joueurs maintenant qui le regrettent parce qu'ils sont venus pour lui. Oui, mais Bay, c'est pas suffisant. Donc, le sentiment qui revient aussi à Marseille, c'est que quel que soit le coach, on a aussi des joueurs, qui n'assument pas leurs responsabilités, et le niveau qui est le leur normalement sur le papier. On a quand même des joueurs qui sont méconnaissables par rapport à leur qualité.
Si vous voulez ouvrir le débat à Bibay, mais je serai pas là demain, mais faites-le.
Bah viens, hein,
parce que en effet, non, mais le constat qu'on peut faire quand même, puisque Flo nous explique qu'il est en train de perdre son vestiaire, on est d'accord qu'il avait perdu le vestiaire à Rennes.
Bien sûr,
il gagne tout derrière, ouais. Et on a eu des échos. Donc si au bout de 3 mois ou 2 mois ici, il commence à perdre son vestiaire, là il y a un vrai débat. Moi, je suis d'accord pour le faire, ce débat-là.
D'accord.
Mais moi, sur ce que j'ai vu. Samedi, enfin ce que j'ai vu, j'ai pas vu, mais j'ai regardé les extraits quand même, et surtout j'ai eu des échos. Tu joues contre Lorient pour te qualifier à la Ligue des Champions et tu cours pas? C'est le coach, ça?
Non,
c'est un tout. C'est un tout pour moi. Vous mettez tout sur les joueurs.
Donc maintenant, quand les joueurs ils ne courent pas, mais moi je vous dis, il vaudrait mieux être joueur aujourd'hui. C'est facile maintenant. C'est toujours la faute de l'entraîneur.
Benoît, sincèrement, sur un match comme ça, sur 90 minutes, peu importe les choix de l'entraîneur.
Bien sûr.
Là, on demande juste de courir. Tu peux rater des buts, tu peux rater des passes. Mais ça, on l'a même pas vu. Tu vois une équipe qui met une grosse intensité, qui a un volume de course important, qui donne le maximum et qui rate. Tu vas te dire, bon, ok, il rate. Mais ils ont donné le maximum. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas une question de rater ou pas rater. C'est une question. Il y a aucune course à haute intensité en direction du but dans la profondeur de proposer. Il y a rien. Mmh. Il se passe absolument rien. Alors après, on peut toujours revenir sur des joueurs qui tremblent. T'as Pavard, Balerdi qui tremble. Voilà. Dès que t'as le petit Dieng, il est en face d'eux. Les mecs qui tremblent. Ils ont deux de tension. C'est incompréhensible. Alors il y a un côté mental. Les mecs qui sont décrochés. Je sais pas. Après, c'est pour ça que je travaille pas dans un club. J'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Mais mon Dieu, mais être incapable de proposer le minimum du minimum sur 5 finales, sur avec un contexte qui est ce qu'il est, c'est assez incompréhensible et c'est assez inexplicable. On parlera tout à l'heure de Benatia. Mm-hmm. Au-delà de son coup de gueule, il y a aussi ça comme un message. Il est perdu. Mais c'est incompréhensible.
C'est pour ça que je vous dis ça. Faire. C'est limite trop gros pour que ce soit possible, en fait. Que tout temps de joueurs soient aussi à côté de leur pompe, c'est complètement fou.
Mais on a là, ça t'est déjà arrivé.
Ouais, non, mais là,
des équipes qui explosent.
Nicolas au 32-16.
Moi, je l'ai connu avec Bordeaux, je l'ai connu. Bien sûr que des équipes qui ne savent plus mettre un pied devant l'autre, des joueurs qui ne savent plus faire une passe à 3 mètres, ça existe.
Bon, là, les mecs qui passent tous là où ils vont jouer l'année prochaine.
Il l'a dit d'ailleurs, Benatia, on l'écoutera dans un instant. Oui. Accueillons Nicolas, supporter de l'OM. Salut Nicolas.
Salut tout le monde, bonsoir.
Bon, Nicolas, est-ce que l'OM va tout perdre alors?
Bah, c'est déjà perdu de toute façon. T'avais les objectifs qui étaient clairs, sortir de la poule Ligue des Champions. T'oublies la Coupe de France où t'étais sur une voie royale, bah pareil, hein, tu iras pas. Et évidemment, pour la cerise sur le gâteau, c'est la Coupe d'Europe que tu feras pas. Donc oui, c'est terminé. C'est
ah, même la Coupe d'Europe pour toi, même l'Europe, n'importe quelle Coupe d'Europe.
Tu sais, dimanche, tu vas jouer contre Nice. T'es le dernier match de la journée, donc tu vas savoir exactement tous les résultats de tes concurrents. A priori, pour la première fois depuis très longtemps, tu vas avoir un stade un petit peu hostile, chose qui n'a jamais été le cas depuis une éternité. Hein. Eric, qui regarde tous les matchs de l'OM, le stade, il n'a jamais été aussi clément que depuis l'arrivée de Benatia, etc. Ils n'ont jamais eu de problème, hein, tous ces mecs-là, stade. Donc, moi, je la sens très, très, très mal, l'histoire. En plus, si je ne dis pas de bêtises, t'as des suspendus aussi dimanche, avec des blessés.
Il va y avoir beaucoup de blessés, beaucoup plus que d'habitude.
Nicolas, je vais même plus loin. Je vais même plus loin. Tu me donne-moi ton avis. Mais à un moment donné, je me demande si ça sera pas salutaire. Tout le monde dégage. Tu repars sur une page blanche. Comme Duga disait, tu prends des mecs qui ont fait et qui courent. Tu vas récupérer Galette. Tu vas récupérer Galette là-bas où il est. Tu le fais revenir. Ah ben moi je vais militer maintenant. Ben oui, à un moment donné. Non, mais à un moment donné, puisque lui au moins.
Eric président,
il y a le président qui arrive. On faisait le débat la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il faut choisir?
Le directeur
sportif ou l'entraîneur? Mais moi je dis, prenez vite un entraîneur. Le directeur sportif, on le prendra après. Prenez Galette, vous allez voir de partout où il est passé, il a réussi. Okay. Allez, il a fait un an à Paris, on s'en fout. Mais lui au moins.
T'en as parlé avec lui ou c'est ton avis personnel?
Non, ça c'est mon avis personnel. Okay. C'est mon avis personnel. Parce que lui, il n'a pas besoin des grands noms. Quand il était à Saint-Etienne ou Lille, il a travaillé avec les mecs qu'il y avait, il les a fait progresser. Voilà, lui, on peut dire qu'il a fait progresser les mecs. Ouais, voilà, c'est sûr, pas le cas de ceux qui étaient là ces derniers temps.
C'est plutôt une bonne idée, en plus de faire becter tous ses potes, tout
ouais,
internet,
c'est fou, là. Ouais, exactement. Ah,
bah, il a pas besoin. Alors, pour becter, il n'a pas besoin de moi, tu sais.
Non, ça, c'est sûr.
Voilà. Et lui, il ne viendra pas pour le contrat, lui. Il ne viendra pas pour le contrat.
Eric, si tu fais une pétition, je la signe.
Et il a fait acte de candidature, d'ailleurs, Christophe Galtier. Il a dit dans une interview récente que l'OM, ça pourrait l'intéresser un jour. Donc on ne sait pas un quand jour. Exactement, mais c'est un projet qui pourrait l'intéresser, tout à fait.
À un moment donné, quand il faut y aller, voilà, c'est tout. Et lui, je te dis, je répète, il va pas venir pour le contrat. Il sait qu'en plus, il a que des coups à prendre. Donc s'il vient, c'est parce qu'il aura envie de bien travailler.
Et tu nous dis ça maintenant. T'aurais été tellement bien président de l'OM, tu sors mais de ta allez, boîte maintenant. Quoi. Non, mais c'est pas possible. Alors, tu sors le 20 avril.
Est-ce que le poste de directeur du foot
Ah, peut-être. Ah bah oui, peut-être.
Par contre, t'es mieux comme président de l'OM. Ah ouais. T'es mieux comme président de l'OM que agent de Christophe Galtier, parce qu'apparemment tu l'as fait venir gratuit déjà. Le mec, il va pas venir pour l'argent, non, déjà.
Alors écoute, j'espère d'ailleurs que si jamais un jour ça se fait, qu'il montrera qu'il vient pas pour l'argent. Bon, je suis sûr. Hein.
Merci Nicolas, merci Flo Germain d'être venu avec nous. Ah. Eric, c'est le moment d'envoyer PSG par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes jusqu'à 18h32 pour assister au match PSG Bayern Munich, demi-finale aller de Ligue des Champions. PSG au 732-16, l'expérience RMC. Vous assistez à Rotten sans flamme, vos deux places pour le match, le débrief dans l'after. Allez-y jusqu'à 18h32. Dans un instant, on poursuit sur l'Olympique de Marseille et on ouvre le procès de Mehdi Benatia et son discours inaudible. À tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
18h32 sur RMC, Rotten sans flamme jusqu'à 20h avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco, avec Souleymane Diawara. Une pensée pour Jérôme Rotten qui reviendra dès la semaine prochaine. Dans un quart d'heure, on débriefe le grand match anglais du week-end, la victoire de Manchester City face à Arsenal. Est-ce que les Gunners ont perdu le titre hier? On sera avec Yohan Djourou, ancien joueur des Gunners. Mais on poursuit sur l'OM avec le procès de Mehdi Benatia.
RMC, Rotten sans flamme.
Tous les coachs aujourd'hui, c'est la mode. Ils vont prendre la responsabilité et puis on va passer à autre chose. Et puis nous, on est tous des caves. Mais moi, pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient, qui n'a plus rien à jouer, et que tu gagnes pas un duel et que tu n'as pas une course vers l'avant, pas entreprenant, tu tentes rien. Quand t'as 5 finales à jouer pour un objectif de Ligue des Champions, et ça doit se voir. Sauf que ça se voit pas. On parle de quoi? De couilles, d'amour propre, de respect. Respect du maillot qu'on porte, du respect des gens.
Le procès de Rotten sans flamme.
La colère et l'exaspération donc de Mehdi Benatia après le match à Lorient samedi. 4 minutes de monologue pour fustiger l'attitude des joueurs marseillais. L'idée de Benatia, c'était justement de les mettre devant leurs responsabilités. Écoutez.
Je comptais plus prendre la parole jusqu'à la fin de l'année parce que je pense qu'on a beaucoup trop parlé les 6 premiers mois. De toute façon, aujourd'hui, quoi que tu dises, bah, t'as tort, forcément. C'est le résultat après des matchs comme ça, tu peux que avoir tort. Par contre, comme j'ai expliqué aux joueurs, c'est que quand t'es ici, toujours un sens de responsabilité. Moi, j'ai pas de problème. On me dit que j'ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait durer plus longtemps, qui est malheureusement parti. Quand je vois les matchs qu'on fait aujourd'hui, même si j'ai pas envie de parler, Karim, je suis obligé de venir à la presse. Parce que c'est un scandale. On fait des stages, donc ça nous coûte des sous, des stages. Mais pourquoi? Parce que tu veux bosser, tu veux te retrouver, tu veux créer du lien avec les mecs parce que c'est ce qu'il a manqué. Parce qu'à ton avis, là, combien sont rentrés dans le vestiaire? Ils ont retourné la table. Combien à ton avis? Qu'en fait, tu joues à l'Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et certains peuvent penser que nous, on accepte. Et j'imagine que le coach, je connais le coach, comme tous les coachs aujourd'hui, c'est la mode. Ils vont prendre la responsabilité et puis on va passer à autre chose. Et puis nous, on est tous des caves. Mais moi, à pas m'enfumer. Donc je leur ai dit de rien prévoir pour les 4 prochaines semaines. C'est un peu plus de temps ensemble, peut-être. La commanderie, le machin, le truc. On va bosser, je pense. Si on doit passer les 4 semaines ensemble, on va passer les 4 semaines ensemble.
Et donc ce soir, on va ouvrir le procès dans Rotten sans flamme de Mehdi Benatia et de son discours inaudible. Le procureur, c'est monsieur Eric Dimeco. Bonsoir.
Bonsoir.
2 avocats pour Mehdi Benatia. Christophe Dugarry, voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Souleymane Diawara, bonsoir. Ah.
S'il a besoin de 2 avocats, d'après moi, c'est qu'il est mal barré, non?
Ah ouais, ouais. Et Yvon, un supporter de l'OM, va rendre son verdict au 32-16. Salut Yvon.
Bonsoir messieurs.
Sois le bienvenu.
Bonsoir.
Eric, vas-y, tu as la parole.
Ben non mais... Non mais ça va aller très vite. Le problème, son discours, il est inaudible pour 2 raisons. C'est pas le bon moment et ça sert plus à rien. 3 raisons même. Tout à l'heure, je l'ai dit. On sait qu'il sera plus là l'année prochaine. Mmh. Alors ça, c'est pas de sa faute. Alors oui, ça peut être de sa faute parce qu'il avait démissionné. Quand on lui a demandé de rester jusqu'à la fin de la saison, il est resté. Donc sauf que quand il reste et qui sait qu'il va partir à la fin de la saison, ou peut-être lui expliquer, lui peut-être espérer continuer. Mais en tout cas, on lui a dit qu'il continuait pas. Il a perdu le vestiaire déjà. Son discours, malheureusement, il passe plus. Les mecs, ils passent qu'à leur gueule, ils passent à leur futur contrat, leur futur club, et ils sont déjà passés à autre chose. Deuxième raison, c'est que il voulait que les mecs retournent à la table. Sauf que en début de saison, quand il y en a un qui a retourné à la table après une première défaite à Rennes qu'il ne la supportait pas, ils l'ont dégagé. Voilà, donc tu veux des mecs de caractère, et quand tu as un mec de caractère, tu le dégages. Tu le dégages en nous expliquant que c'était d'une violence comme on n'avait jamais vu. Mais moi, j'aurais aimé qu'ils sortent à sang, justement, parce qu'ils se sont tous battus dans le vestiaire samedi soir. J'aurais aimé, moi, ça. Moi, si dimanche matin, on m'avait dit que les mecs qui sont sortis du vestiaire à sang, ils se sont tous mis sur la gueule. Là, j'aurais dit, ah tiens, putain, il y a une vie dans ce vestiaire. Les mecs, ils sont pas résignés, non. Il a dit, mais ils sont tous résignés. Voilà. Et dernière chose, c'est que ce que fait tous les choix qui ont été faits des entraîneurs, du nouvel entraîneur, du départ de l'entraîneur,
des joueurs,
c'est lui, c'est des joueurs, c'est lui, c'est son équipe. C'est son équipe, malheureusement.
Il a recruté 10 et 11 titulaires samedi.
Et ce qu'il a fait là après le match, pour moi, c'est de la com pour montrer qu'il est là encore et que lui n'accepte pas. Ben tant mieux qu'il y en ait un au club qui accepte pas ça. Tant mieux. C'est le seul point positif que je vois. Mais malheureusement, à la limite, tu le fais le lendemain ou si t'es obligé de le faire comme ça devant tout le monde, c'est que tu sais que il sert à rien ton discours. Si tu le fais dans les vestiaires devant les mecs, il sert à rien. Voilà. Donc pour moi, malheureusement, c'était pour la galerie, la sortie.
Dugas, parole à la défense.
Non mais il a tout à perdre, Benatia, en allant faire cette interview. Donc il a que des coups à prendre. Donc dire aujourd'hui que c'était de la com, non, c'est pas de la com. Il aurait pu rester tranquillement. Il avait dit qu'il parlerait plus, il parle plus, et il laisse les joueurs se démerder. Il reste 4 journées. Qu'est-ce qu'il a à gagner, Benatia, en allant au feu comme ça? Il a voulu mettre les choses. Moi sur ce qu'il dit, là où je suis surpris de la part d'Eric, c'est que c'est exactement ce que dit Eric. Donc le discours, alors il trouve qu'Eric c'est pas le bon moment, mais j'ai l'impression qu'avec Eric c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Non. Donc la mise au vert, c'était pas le bon moment non plus. Hop, s'il vous plaît, excusez-moi, collègue, vous avez déjà parlé. Donc la mise au vert, c'était pas le bon moment non plus.
Non, mais là, il y a des preuves, là, quand même.
Il y a des preuves de quoi?
Eh ben, que c'était pas le bon moment, la preuve.
Ah, parce que tu pensais.
Les preuves que quand les mecs se battaient dans le vestiaire, tu les dégages. Donc ça veut dire que les mecs se battent plus, puisque quand tu te bats, tu te dégages.
D'accord. Donc du gars, quand même. La mise au vert, tu pensais que parce qu'il allait y avoir la mise au vert, que ça, ils allaient tout gagner, que ça allait être extraordinaire.
Pas du tout. Tu t'es dit que ça servait à rien, que c'est pas le bon moment, que c'est pas le bon moment.
Voilà, exact. C'est jamais le bon moment. Non, mais j'ai bien compris, c'est jamais le bon moment. Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire quelque chose, soit c'est de la. Non, c'est jamais le bon moment.
Allez, on respecte les plaidoiries.
Eh ben écoute, donc non. Après voilà, moi le discours de Benatia, je trouve qu'il est plein de sincérité. Il est difficilement audible et je le comprends très bien parce qu'il a une énorme responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Et j'ai pas l'impression que dans le discours qu'il donne, il se défausse. Moi j'ai pas l'impression qu'il se défausse. Il assume. Il sait très bien que ça va être compliqué. Il sait très bien que voilà, que malheureusement, mais il y va. Il y va. Donc moi je trouve que c'est plutôt courageux. Je suis pas là pour innocenter mon client parce que je pense que de toute façon il sera coupable. Mm-hmm. Mais au moins essayer de rabaisser un peu la condamnation parce que je pense que les joueurs, une nouvelle fois, comme l'a dit très souvent Eric, et il avait déjà prédit Eric depuis le début de la saison, parce que depuis le début de la saison il nous dit c'est la faute des joueurs, donc une nouvelle fois un mec qui vient dire devant tout le monde avec les coronets qu'il faut c'est la faute des joueurs, et ben ça va pas Eric, donc écoute je suis terriblement surpris.
Bon, saoulé, si tu veux rajouter.
Je crois qu'il m'a pas écouté.
Après ils ont tout fait, ils ont à peu près fait le tour. C'est vrai que moi, la sortie de Mehdi, en soi, je le comprends parce que, en fait, c'est son travail, là. C'est là, même s'il reste un mois et demi à peine, il avait dit qu'il allait plus parler, mais là, il est obligé de parler avec ce qu'il a vu parce que ce sont ses joueurs qu'il a ramenés, et de le voir comme ça, il est obligé de venir parler et de mettre la responsabilité des joueurs en face. Parce que.
Ah, donc il s'est défaussé, du coup. Donc toi, tu dis, il est venu pour se défausser.
Non, mais il est venu c'est un peu aussi de la faute des joueurs parce que là, on peut dire ce qu'on veut. Eric, pardon. Mehdi, il a fait son travail, il a ramené les joueurs que le coach De Zerbi voulait. Et à un moment donné, il est plus sur le terrain. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Et le fait de voir l'attitude et le match qu'ils ont fait samedi à Lorient, il est obligé à un moment donné. Il sert à rien ce discours, puisque l'année prochaine il est plus là et les joueurs, tu sais qu'ils vont même plus écouter.
Le procès est fini. Juste, je vais poser une question à Soulé. Ouais,
et après c'est le verdict.
Donc parce que moi, dans sa sortie, on est content nous parce que c'est ce que les supporters sont tellement énervés que de voir le directeur sportif faire ça, c'est ce que tout le monde a envie de faire. Donc il y a pas de souci, sauf que moi quand j'entends. Il y a personne qui a retourné la table.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Mais là, t'as raison. Là, on peut te donner raison.
Le problème du gars. Et là, c'est pareil. Il y a des bandes pour moi, le péché originel de cette saison, c'est quand tu dégages Rabiot.
Mais oui, bien sûr.
Tu dégages Rabiot. Tu as fini ta saison.
Là, il y a plus de cadre maintenant.
Tu as le seul joueur international qui t'a tiré. Sauf que le truc du gars, c'est qu'il est parti, tout ce qu'il a fait l'an dernier, c'est-à-dire tirer l'équipe vers le haut, le seul qui mettait des claques à l'entraînement au mec qui dormait, ou rappelle-toi, il a fait des sorties après les matchs.
Oui, ce mec-là
qui te tirait l'équipe vers le haut.
Allez.
Tu le dégages comme ça?
Alors.
Parce que, on t'explique que parce qu'il s'est disputé après une défaite, et l'autre te dit, il n'y a personne qui a retourné la table. Eh ben, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a énervé, je suis désolé. Après, je comprends sa sortie, mais moi, ça, je peux pas l'entendre.
Yvon, qui remporte ce verdict? Est-ce que c'est la doublette du gars saoulé ou est-ce que c'est Eric?
J'ai travaillé sur le dossier depuis hier. J'ai vu un casier long comme le bras de monsieur Benatia.
D'accord.
On va rappeler les faits un petit peu. On va rappeler un petit peu les faits.
On les connaît, hein.
Ça commence en 2024 déjà avec le projet Bayardi, que tu lui donnes le brassard alors que tu finis 8e au classement. Après, bon, je saute l'année. Il y a une gestion catastrophique sur le cas Rabiot et Héro, que tu vis Rabiot parce que ton N-1, c'est-à-dire deux arbitres, ne voulaient plus lui alors que toi, t'es N-1. Suite à cela, tu fais une fin de mercato catastrophique avec Pavard, Aguerre, O'Reilly.
Non, mais en début de saison, quand tu vois le mercato, tu dis pas ça. Hein.
Tout le monde dit que c'est bien.
Oui, mais il y a trois échecs. Et sur trois échecs-là, lui nous parle d'argent, qui ça le coûte d'argent d'Alain Marbella. Mais sur les trois joueurs, là, déjà, en salaire, t'as déjà liquidé 10 millions, déjà. Donc avant de parler d'argent, je dirais qu'il regarde déjà le portefeuille de.
Donc son discours est inaudible, alors, Yvon, c'est ça?
Et regarde le mercato hivernal, déjà, c'est lui qui enlève Vaz, c'est lui qui enlève Bacola, il enlève O'Reilly, il enlève Murillo. Il enlève Murillo parce que son N-1 aussi n'a plus voulu lui. Donc comment t'as un N-1 déjà moi je suis chef d'entreprise moi. Donc moi mon chef de chantier va me dire, moi je veux plus de ce salarié, prends-moi un stagiaire. Je dirais écoute mon coco, mais c'est moi qui te paye, donc tu restes avec lui. Donc lui, tellement qu'il était fan de Zerbi, il écoutait tout ce qu'il disait. Donc avant de parler pour les joueurs qui regardent déjà son travail.
Non, mais après, attends,
ensuite tu remplaces par Abdelli qui est remplaçant à l'Algérie et qui est même réserviste à l'Algérie. Et tu prends Nandji, le petit qui est remplaçant au Nigeria pour pas le faire jouer. Donc il parle des joueurs, mais c'est lui qui recrute les joueurs. Ensuite tu prends ton copain Abid Bey qui était champion de national grâce à Monsieur Pierre Sage. Donc le mec il a fait national.
Soulé Dugas, je crois que c'était perdu d'avance. Désolé de vous le dire,
il critique les joueurs alors que lui il balait même pas devant sa porte. Il est là.
C'est beau, vous êtes mis à deux, c'est beau.
Bon, ok, merci.
Déjà, si on réussit à ramener sa condamnation à quelques jours avec sursis, c'est déjà pas mal. Voilà.
Merci, Yvon, désolé. Non. Vas-y. Dernier mot de la fin, vas-y. Est-ce qu'il est là, Yvon?
Il ramène son pote aussi, qui sont les deux, là. Bey et Benassé, avec leur égo surdimensionné. Ils connaissent tout, ils savent tout du football, mais il n'y a rien sur le terrain. Bon. Donc moi, je dis victoire.
Crac. Victoire de la légende de l'OM, Eric Dimeco.
Ce qui est très beau, quand même, c'est qu'après.
Bon, je t'aime bien, Dimeco, hein. Mais franchement, je pense que c'est le pire duo Benassia et Abid Bey depuis Monsieur Dimeco en tant que directeur sportif et Abel Braga. Non, je rigole.
Non, Abel Braga, oh, légende du foot, Abel Braga.
Non, je rigole.
Ah ben, il est juste champion coupe intercontinentale.
Bon, merci Yvon d'être venu. Victoire d'Eric dans ce procès. Sais,
et après, souviens-toi, quand les supporters de l'OM, ils nous appellent parce qu'ils nous trouvent trop durs sur le
marché.
Regarde ce qu'il vient d'arroser, celui-là. Tu n'es pas bon, celui-là.
Allez, dans un instant, on revient sur le City Arsenal. Est-ce que les Gunners ont perdu le titre? On sera avec Yohan Jouroua tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
18h48 sur RMC Rotten sans flamme avec un magnifique trio ce soir, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Souleymane Diawara. Est-ce que la course au titre est relancée? Ce sera notre débat de 19h dans Rotten se chauffe. On vous attend, supporters parisiens et lensois. Mais tout de suite, on revient sur le choc de Première Ligue hier.
RMC Rotten sans flamme.
Andrea Shabanich, Giroud, it's a second. It is an incredible start for Arsenal.
And Giro with the free run, you got to say it's a terrific header. And what a start for Arsenal.
Allô Jérôme.
Est-ce que c'est plus qu'une défaite donc pour Arsenal? Les Gunners battus sur la pelouse de Manchester City 2-1 hier. C'est la quatrième défaite sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour Arsenal. On rappelle le classement de la Première Ligue. Les Gunners toujours leaders, 3 points d'avance sur City, mais qui compte un match en moins. Et il reste 5 journées à disputer pour Arsenal. Ont-ils perdu le titre hier? On pose la question donc à Yohan Jouroux, consultant Ligue 1 Plus, qui est en direct avec nous. Salut Yohan.
Bonsoir, comment allez-vous?
Ah, sois le bienvenu. T'as que des amis là, hein. T'as Dugas, Soulé, ouais. Eric.
Yo, on en a parlé.
Les légendes.
On en a parlé d'Arsenal.
On en a parlé.
Et qu'est-ce que vous avez dit avant?
On en a parlé.
Voilà. Bon, déjà, yo, ton analyse du match avant d'entendre Dugas, Eric et Soulé.
Bon, mon analyse du match, en fait, ce que je trouve positif sur ce match-là, c'est qu'enfin, ils ont joué. C'est un visage que j'avais plus revu depuis longtemps, d'une équipe qui était entreprenante, qui mettait la pression, qui essayait de trouver ses dernières passes. Et en fait, il y avait ce sentiment de frein à main pendant ces dernières semaines où tu avais une équipe qui prenait pas les risques de garde, prenait pas peut-être cette passe qui faisait mal. Mais là, hier, j'ai vu un quelque chose de très positif. Malheureusement, on peut parler de malheureusement, et le football, c'est les détails. Inverse ne marque pas. Parce qu'il y a deux occasions pour moi qui sont 100% et peut-être que ça change la physionomie du match, malheureusement. Est-ce que c'est peut-être le tournant? C'est clairement un moment difficile pour Arsenal, mais si on parle d'analyse, je trouve qu'Arsenal était meilleur que City sur le match et que malheureusement, les détails et qu'un City qui revient de loin, encore une fois, a réussi à prendre le dessus.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dugas, t'as vu le match? Est-ce que...
Non, mais c'est intéressant, je partage totalement ce qu'il dit, mais après, pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'Arsenal n'a pas réussi à le faire avant? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils sont amorphes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Moi, j'ai envie de dire, c'est le titre n'est pas joué. Voilà, le titre n'est pas encore joué. Arsenal est certainement sonné parce que cette défaite, elle fait mal, parce qu'elle est certainement contre le cours du jeu. J'ai pas l'impression que City ait montré énormément de choses non plus. Mais c'est aussi ça qui est inquiétant, c'est qu'en montrant très très peu, City, ils arrivent quand même à battre Arsenal, et Arsenal montre quand même cette fébrilité, autant défensive qu'offensive avec ses actions de Havertz. Alors même s'ils ont réussi à créer un petit peu plus, et ça tremble quand même, ça tremble dans les deux surfaces. Et ça quand même sur un sprint final, avec ce qui s'est passé avant ce match de City, j'ai quand même pas l'impression que ce match, malgré la bonne prestation, a gommé tous les doutes. Parce que quand t'es pas bon, t'engranges pas des points comme avant City. Ils étaient amorphes, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Enfin, c'était assez catastrophique. Ils étaient totalement bloqués. Et là, quand ils arrivent un petit peu à se débloquer, à faire un petit peu mieux, là, ils sont inefficaces dans les deux surfaces et en plus, ils perdent le match. Donc, dire que ce match va les relancer, j'ai du mal à y croire. Mm-hmm. Mais écoute, aujourd'hui, c'est plus que jamais du 50-50, même si la dynamique, elle est totalement en faveur de City. Ils vont se retrouver au même nombre de points. Ça va se jouer avec ce qu'on a dans le pantalon. ça va pas se jouer dans les pieds. Pas là. City a gagné bien souvent des titres, justement, en gagnant dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. Ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. City a l'habitude de faire ce genre de choses. Arsenal a plutôt l'habitude de s'écrouler dans les moments importants. Donc c'est vrai que la dynamique paraît pour être au City. Mais voilà, moi je sais pas, j'ai quand même envie d'y croire Arsenal parce que ça serait.
Mais
ça
tu
serait,
penses que ce match-là, du gars, avec cette défaite-là, ça leur a pas mis un vrai coup mentalement? Parce qu'ils avaient quand même 9 points d'avance quand même.
Mais surtout, Johan, toi tu connais par cœur ce club, tu y as passé de nombreuses saisons. Et on a l'impression que l'histoire se répète à chaque fois. Quand on les voit en tête de Première Ligue, on se dit bon, là ça va forcément craquer un moment. Cette année on y croyait vraiment, il y avait 9 points d'avance comme le disait Soulet. Mm-hmm. Si tu gagnes pas cette année le titre de Première Ligue, de champion d'Angleterre, ça va être une catastrophe pour la suite et les prochaines saisons des Gunners, non ?
Non, je rejoins totalement les points qui ont été dits sur le plateau. Et c'est vrai que quand on prend les 2-3 dernières saisons, Arsenal a souvent dominé, a souvent eu ce côté en début de saison de cet effort, ce vent positif qui mettait que cette équipe était injouable même par moment et qui prenait une avance assez considérable. Et malheureusement, il y a ce truc comme tu n'as pas gagné depuis longtemps, cette crainte. J'ai l'impression qu'il y a une crainte qui s'installe, cette crainte de gagner, les doutes commencent à arriver. On prend un peu moins de risques, on est plutôt protecteur que d'être plutôt dans proactif. On attend, on essaye de cadrer l'adversaire, marquer sur corner. Et ce championnat est tellement complexe parce qu'aujourd'hui on parle de points, mais les points que Arsenal ont perdu, que ce soit Bournemouth, que ce soit Wolves, sur quoi égaler 2-0, c'est des matchs compliqués. Et j'ai l'impression que les gens ont peut-être tendance à oublier que ce championnat, les matchs, même à la maison, à l'extérieur, sont compliqués. Et c'est vrai que City était aussi moins bien. City, cette saison, a perdu beaucoup de points. Ce qui fait que s'il n'a peut-être pas perdu ses points-là, on n'aurait même pas la discussion aujourd'hui de parler de qui est premier ou qui est deuxième.
Mais cette faillite.
Le championnat, il est un peu faible quand même cette année. Quand même.
C'est pas
le
la grande première ligue qu'on a connue, Johan.
C'est ça, exactement.
Oui, avec plaisir, Eric.
Pour moi, je pense qu'on a assisté à la bascule dans le sens où les dynamiques sont inversées là en ce moment. On le voit, hein, quatre matchs avec des buts là de City sur les dernières. Bon, il y a la finale de la Cup, il y a quoi ? Il y a un quart de finale de.
Ouais, ils se sont fait sortir des deux coupes
de la Ligue.
Ouais. Hein, ils sont fait sortir des deux coupes. Ouais, ouais.
Oui, mais City ouais, justement ouais. A gagné, que ce soit contre Liverpool, contre Arsenal, voilà. Donc on a l'impression que ils ont le deuxième souffle ou le dernier souffle qui leur permet, même en étant moyen, parce que je suis d'accord sur ce qu'on a vu hier, ils sont pas supérieurs, sauf que ils ont toujours un pouvoir offensif qui va leur permettre de marquer des buts. Et n'oublions pas que en plus que la dynamique n'est pas pour Arsenal, qu'il y a ce côté psychologique qui n'est pas pour Arsenal aussi, parce que là on est obligé de se poser des questions à un moment donné. Si chaque fois qu'elle t'arrive en bout de course, tu te mets au galop là, comme tu vois les courses de trop là, c'est que peut-être il y a un problème dans ce club là, ce niveau là. Et n'oubliez pas, demi-finale de Ligue des Champions,
et voilà,
ça va bouffer du
énergie.
En plus l'Atlético pour te presser comme des citrons et te faire passer dans la machine à laver, il y a pas mieux, hein. Donc je serais pas étonné qu'avant et après ces matchs-là, ils perdent des points encore, Arsenal. Voilà. Alors après, si City, ils en perdent aussi, qu'ils font pas le job. Mais, écoute, moi, j'ai bien peur qu'on ait assisté à la bascule ce week-end.
Et l'avantage qu'ils ont, comme tu dis, Manchester City, c'est que eux, ils jouent pas la Ligue des Champions.
Et c'est fini.
Tu vois? Et là, c'est toujours l'occasion pour eux,
ils ont encore une coupe, non?
Ouais, mais bon, tu sais, tu dépenses pas la même débauche d'énergie en Ligue des Champions qu'en coupe. Donc, c'est pour ça que je dis à chaque fois, là, ils ont raté le coche en perdant ce match-là. Parce que déjà, un, mentalement, ils vont prendre un coup. Deux, il y a encore la Ligue des Champions où ils vont laisser des plumes. En plus, contre l'Atlético de Madrid. Et là, ça va être très compliqué pour Arsenal. Et en plus, on le sait, c'est pas la première fois.
oui. où tu as raison et je te rejoins, c'est qu'en plus il y a l'effectif. Tu vois, on parle de Saka qui est blessé, Timber qui est blessé. Donc ça fait qu'avec ses charges et ses matchs en plus, c'est vrai que de récupérer ces joueurs-là, c'est aussi important pour un club comme Arsenal parce que la question est toujours comme un effectif et vous avez joué au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a vraiment 16, 17, 18 gars de classe mondiale qui peuvent faire la différence à Arsenal? Et aujourd'hui, malheureusement, quand tu joues avec ton troisième arrière droit, c'est pas une excuse, mais ça peut-être que ça tient pas en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, des gars comme Saka, comme Timber, sont tellement importants que du moment où il y a plus cette présence-là, eh ben l'effectif est très affaibli.
S'il gagne pas cette saison, ça va être compliqué les années d'après parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont passées à travers.
C'est clair.
Et pour moi, c'est le plus petit City de l'ère Guardiola.
Ça fait 10 ans qu'il est là.
Oui, oui.
Johan, t'es confiant ou là ça y est le stress commence à monter là pour la fin de la saison pour les Gunners?
Il a l'habitude, ça y est. Yo,
non mais je vais être honnête, j'ai jamais été confiant. C'est-à-dire que c'est des discussions qu'on a eues depuis un moment déjà où tu sais que City aime cette position de outsider. Tu vois, et tant que Arsenal ne le confirme pas et ne prend pas ces points où tu sais qu'ils sont sereins dans leur match. Faut pas oublier qu'Arsenal a gagné des matchs vraiment en difficulté sur corner, des 1-0, difficiles, où t'es pas forcément serein à la fin. Donc, j'étais pas forcément très serein par rapport à leur position. Je savais que ça pouvait tourner. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, par rapport justement à la dynamique, je pense que ça va être compliqué.
Ah, Johan, ça y est, même toi, t'y crois plus. C'est foutu, là.
En plus,
Attention. Non. C'est pas ça. Je dis que la dynamique est plutôt pour City aujourd'hui qu'Arsenal.
Les adversaires, ils ont compris Arsenal aussi. Tu sais que leur point fort, c'était les coups de pied arrêtés. Maintenant, ils ont géré un peu les coups de pied arrêtés. Et on voit la difficulté qu'ils ont à marquer un peu, tu vois, dans le jeu.
C'est vrai. Non, mais demain dans les
tabloïds anglais,
il y aura Yuan Jo,
on n'y croit plus, ça y est, c'est terminé.
Il a dit qu'il ne regardait plus les matchs parce que ça lui donnait le
cap. Personne ne croit en son club.
Yoann, merci d'être venu.
Tu veux te remonter le moral à regarder les matchs de l'OM?
Merci à vous.
Non, mais Yoann, merci, ça sera la une des RMC Sport en quelques minutes. Yoann Jourou n'y croit plus, Arsenal va perdre le titre de champion. Non, mais merci en tout cas d'être venu.
Yoann,
consultant Ligue 1 Plus, on précise que Ligue 1 Plus, diffuseur du championnat, va diffuser tous les matchs gratuitement lors de la prochaine journée. Donc tous les matchs dispo, si jamais vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à y aller. Tous les matchs en clair, justement, pour relancer l'intérêt de la Ligue 1 qui est passionnante avec la course au titre et la course à la Ligue des Champions. Merci à Johan. On suivra évidemment ce duel à distance entre City et Arsenal et dans un instant. On parle de la course au titre en Ligue 1. Est-ce qu'elle est relancée? 32-16, supporters parisiens et Lensois. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.